Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui non pas sur les aspects de politique intérieure, car tout le monde attend évidemment la prise de position d'Emmanuel Macron dans la semaine qui est censé lui permettre de relancer son action sur le front intérieur, mais nous allons plutôt parler du front extérieur, car sur le front extérieur, il s'est passé des choses, il s'est passé un voyage en Chine important, mais qui a été accompagné, après le départ d'Emmanuel Macron de Chine, de propos tenus à des journalistes dans l'avion, qui ont fait polémique. Et donc nous allons, Jean-Claude Casanova et moi-même, discuter de cela, parce que ça a quand même provoqué de sacrés remous en Europe, également aux États-Unis, mais moindre aux États-Unis, davantage en Europe. Alors, quel est le sujet? Le sujet est parti de la situation à Taïwan, fin d'un voyage en Chine d'Emmanuel Macron qui s'est très bien passé sur le plan diplomatique et sur le plan, j'allais dire, bilatéral, y compris sur le plan commercial aussi, parce que des accords importants ont été signés. Emmanuel Macron succédant au Premier ministre espagnol, précédé lui-même par le chancelier allemand, et Emmanuel Macron sera suivi de la première ministre italienne. Donc les Chinois, j'allais dire, pratiquent avec les Européens la technique du salami. Ils voient nos dirigeants les uns après les autres, comme pour mieux souligner que l'entité Union européenne n'est pas vraiment leur objet. En tout cas, pour Emmanuel Macron, il y a eu des déclarations qui ont semé le doute, parce que il a évoqué la situation à Taïwan et la querelle entre la Chine et Taïwan, et du coup la querelle entre la Chine et les États-Unis, en déclarant qu'il ne s'agissait pas pour la France d'être, et pour l'Europe, disait-il, d'être suiviste vis-à-vis des Américains et d'être entraîné, disait-il, dans des conflits qui ne seraient pas les nôtres. Et donc, évidemment, cela a provoqué quelques émotions ailleurs en Europe, parmi nos partenaires et nos amis et nos alliés, qui se sont dit « mais de quel suivisme parle donc le président de la République ?» Donc, on va partir de là peut-être, Jean-Claude Casanova, sur cet aspect-là de la déclaration. Il y a d'autres aspects de ce qu'a dit Emmanuel Macron sur lesquels nous reviendrons, notamment le fait qu'il a, au fond, montré du doigt et morigéné ceux qui, parmi les commentateurs et les journalistes, critiquent la complaisance, la soi-disant complaisance de la Chine vis-à-vis de la Russie. Mais en fait, la Chine n'est pas complaisante avec la Russie, elle est l'alliée de la Russie. Donc, des propos qui étaient très difficiles, au fond, à comprendre. Alors, mise au point d'Emmanuel Macron dès son voyage aux Pays-Bas qui suivait son voyage en Chine, pour dire « la position de la France est très simple, elle n'a pas changé, nous sommes pour le statu quo » entre la Chine et Taïwan, et l'unité de la Chine, Chine plus Taïwan, ne pourra se faire que par des voies pacifiques. Alors, dit comme cela, il n'y a rien à dire. Mais évidemment, ça n'était pas tout à fait ce qui accompagnait les propos du président dans l'avion. Jean-Claude Casanova.
Oui, non, c'est un propos inopportun, si vous voulez, mal réfléchi, et qu'il n'aurait pas dû tenir. Il a dit « la crise n'est pas la nôtre », c'est faux, c'est la crise de Taïwan est la nôtre, elle est celle de tous les pays européens, et de tous les pays du monde libre. Donc, considérant que c'est un dérapage, je suis allé sur le site de l'Élysée, j'ai pas retrouvé les propos exacts, c'est un site d'ailleurs très mal fait, mais quelque part il y a écrit Cocorico. Alors, choisir Cocorico comme devise, ça prouve que les gens de la communication d'aujourd'hui ne sont pas très très futés, parce qu'ils devraient se souvenir qu'Edmond Rostand disait que la caractéristique du coq était de chanter le matin et de croire qu'en chantant il faisait lever le soleil. Et donc, il faudrait que dans sa diplomatie et dans son verbe, la politique étrangère de la France soit plus modeste dans l'expression, elle serait plus persuasive. Jean-François Revel disait « à force de rayonner, on a carbonisé le reste du monde ». Il faut éviter cette espèce de présomption qui ne correspond pas à la dimension de notre pays et qui ne correspond pas à la sagesse politique. Mais si on revient aux choses sérieuses, le voyage, je crois, positif, puisque Macron voulait expliquer aux Chinois qu'il ne fallait pas trop aidé la Russie, s'en dissocier. Il n'a pas eu de résultats très positifs là-dessus, mais il a fait la démarche qu'il fallait faire. Et surtout, il a affirmé qu'il fallait prendre l'Europe comme un ensemble. Il est allé avec la présidente de la Commission. Et donc, de ce point de vue-là, sur ce point, qui est le point central, si j'ose dire, il a parfaitement raison. Et là, sa politique est profonde. C'est-à-dire que il faut que l'Europe se constitue comme ce qu'elle pourrait être, c'est-à-dire comme une puissance équivalente aux États-Unis, Canada d'un côté et Chine de l'autre. Si évidemment l'Europe est fragmentée, si elle a une politique contradictoire, elle ne réussira pas. Et d'autre part, j'ajouterai que la politique française est une politique tout à fait conforme à la politique occidentale. Nous participons aux manœuvres navales qui assure la liberté des mers. Nous fournissons des armes à des pays qui ont des conflits territoriaux avec la Chine, comme l'Inde, ou comme nous voulions le faire avec l'Australie. Nous avons fourni des frégates à Taïwan, etc. Dans les faits, la politique française ne se dissocie pas de la politique atlantique en général, de la politique occidentale, de la politique des démocraties, pour simplifier.
Alors, le problème, c'est qu'on va revenir sur un certain nombre d'éléments du discours d'Emmanuel Macron. Donc, à la fois une grande interview au journal Les Échos et au site Politico, qui étaient donc des propos tenus dans l'avion, parce qu'il évoque, il dénonce ce qui serait le suivisme vis-à-vis des États-Unis. Et ça m'a fait penser à une longue trace de la politique française, qui est toujours, et qui est un défaut de la vision française d'ailleurs, qui consiste à penser ou croire ou faire croire que l'on est indépendant à compter du moment où on se dissocie des États-Unis. Donc le maître mot, c'est ne pas être aligné sur les États-Unis. Sauf que les circonstances font que un certain nombre de circonstances historiques, on doit être et on est aligné sur les États-Unis. Mais le fait de ne regarder les choses qu'à travers ce prisme, est-on ou n'est-on pas aligné vis-à-vis des États-Unis, il me semble que ça conduit à un certain nombre de bons esprits à s'égarer sur la Russie et au nom de ce non-alignement, à privilégier une relation avec Vladimir Poutine, dont on voit aujourd'hui qu'elle était d'une certaine façon inepte. Et je pense que Emmanuel Macron a vécu cela, puisque il avait commencé par essayer d'esquisser un partenariat dit stratégique avec la Russie, avant de s'apercevoir évidemment que Poutine n'était pas tout à fait du même bois que ce qu'il pensait. Donc Jean-Claude, on retrouve là quand même une grande permanence du Quai d'Orsay, pour ne pas dire d'un carteron d'ambassadeur en retraite, mais parce qu'il y a un certain nombre d'anciens ambassadeurs qui sont sur cette ligne-là, qui disent que nous ne devons pas être dans une logique de bloc où il y aurait le bien d'un côté, le mal de l'autre. Nous devons avoir une vision réaliste. Oui, sauf que du côté de la Chine et de la Russie, on se constitue en bloc, en désignant comme adversaire et comme ennemi historique les pays dits occidentaux, dont le nôtre, puisque l'ambition de la Chine et de la Russie, c'est de mener en permanence cette guerre idéologique et peut-être un jour au-delà face à ce qu'ils considèrent comme l'Occident déclinant, en déclin, corrompu, ainsi de suite. Jean-Claude Casanova.
Le langage politique ne peut jamais être parfaitement véridique. Donc on peut pas le regarder uniquement sous l'angle est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Mais il faut le regarder sous l'angle de son opportunité. C'est-à-dire que Lorsque nous disons que nous voulons nous dissocier des États-Unis et que nous ne dissocions pas, en fait, si on fait un tableau des caractéristiques de la Chine, regardez du point de vue des États-Unis et regardez du point de vue de l'Europe, je ne vois pas quelles différences peuvent apparaître. Donc, si des gens le pensent, qu'ils nous indiquent en quoi les intérêts des États-Unis et les intérêts de l'Europe vis-à-vis de la Chine sont fondamentalement différents, tant dans l'ordre politique que dans l'ordre économique, commercial ou financier. Mais si on tient compte du langage d'un homme politique qui dit il faut se dissocier, alors on peut considérer qu'il le dit pour satisfaire une partie de l'opinion. Il y a rien de mal à ça, si vous voulez. Le général de Gaulle voulait l'indépendance de l'Algérie, il disait « je vous ai compris ». Bon, dans la manœuvre politique, on peut comprendre, si vous voulez, que le langage ne soit pas correspond exactement à la réalité. Mais je ne crois pas que ce soit efficace, justement, parce que ça crée une très... Et ça me paraît contradictoire avec l'objectif profond de Macron, qui est la souveraineté européenne. Dire, par exemple, que nous avons une politique spéciale sociale. L'Angleterre ne peut pas nous suivre. L'Angleterre est extraordinairement présente dans la partie Indo-Pacifique, si vous voulez. Le roi d'Angleterre est roi d'Australie et roi de Nouvelle-Zélande. Tous les pays européens, d'une certaine façon, sont concernés. Et nous ne pouvons pas avoir une politique complètement différente de la leur. Donc ça ne sert à rien de dire ça. Ça a même des effets négatifs, parce que ça favorise les adversaires. Nos adversaires en Asie, et ça nous divise. Et l'opportunité politique nationale est faible. L'électorat français ne se détermine pas sur le fait que nous avons une position différente des Américains sur Taïwan.
Alors, cela dit, sur Taïwan, il y a aussi un autre mot qui a fait tiquer un petit peu de la part du président de la République, quand il a dit, au fond, ça n'est pas un conflit global. C'est un conflit régional. Non, il me semble que c'est quand même un conflit global, en tout cas on voit mondialisé certainement, parce que il est question de la libre circulation dans un canal qui voit passer une très large part du commerce mondial. Il est question aussi de problèmes territoriaux. Il est question aussi du contrôle du Pacifique, et dans le Pacifique Sud, la France est très présente. Donc, ce serait nécessairement, s'il y avait un conflit armé, ce serait nécessairement évidemment un conflit global. Et donc ça, là aussi, le président de la République a pu froisser quelques-uns de nos partenaires. Alors, aux États-Unis, les réactions ont été naturellement démesurées de la part de Donald Trump, mais extrêmement mesurées, modérées de la part de Joe Biden. Joe Biden a fait dire simplement, écoutez, non, la relation bilatérale avec la France est excellente, et puis on est passé à tout autre chose.
Commentaire sur Radio Classique.
Jean-Claude Casanova, aujourd'hui nous évoquons la diplomatie du président de la République et le fait qu'un certain nombre de ses déclarations ont pu perturber en tout cas un certain nombre de nos alliés européens qui se sont demandé au fond si Emmanuel Macron avait bien conscience, peut-être est-ce que je vais trop loin, mais néanmoins avait bien conscience de la portée de ses propos. En tout cas, certains, notamment en Pologne, ont pu s'exprimer dans ce sens. Jean-Claude Casanova.
Non, vous avez touché un point que je crois important sur lequel je voudrais insister, parce que il y a une différence fondamentale dans le monde actuel, c'est qu'il y a des démocraties et des pays qui sont, comme on voudra, des autocraties, des tyrannies, ce qu'on voudra. Et il ne peut pas y avoir, il y a de prétendus réalistes qui disent que ça n'a pas d'importance, c'est une proposition idiote, parce que depuis la guerre du Péloponnèse, tous les drames de la politique mondiale viennent de l'hétérogénéité. Hétérogénéité des religions, hétérogénéité des régimes politiques, hétérogénéité des intérêts, etc. Et donc c'est d'une très très grande importance, parce que quand on est une démocratie, comme la France ou comme les États-Unis, on est soucieux de la liberté. Et donc on ne peut pas être indifférent à la liberté des gens de Taïwan. C'est-à-dire, si demain il y a une opération militaire de la Chine sur Taïwan, bien sûr, nous ne ferons pas la guerre à la Chine. Ça, nous n'avons pas les moyens ni la force. Et il n'est même pas sûr que les États-Unis interviennent militairement. Mais néanmoins, il est nécessaire et souhaitable que nous défendions la liberté des gens de Taïwan. Parce que quand on croit à la liberté pour soi, ça veut dire qu'on croit à la liberté pour les autres. Les prétendus réalistes qui disent qu'il ne faut pas tenir compte de ça sont des gens qui pensent que les hommes sont différents par nature et qu'il est dans la nature des Chinois ou dans la nature des Russes ou dans la nature des Taïwanais ou dans la nature de tel régime africain de ne pas avoir de liberté. Donc, il faut traiter les gouvernements signés. J'ai vu que dans le protocole qui a été signé avec la Chine, la France et la Chine s'engagent à défendre les droits de l'homme. Bon, mais dans les droits de l'homme, il n'y a pas le parti unique. Hein, avec le monopole du pouvoir à un seul parti. Et donc, d'une certaine façon, si vous voulez, je crois que il est nécessaire et réaliste que dans la politique des démocraties, il y ait cette dimension morale et cette dimension politique de défense de la liberté.
Oui, le mot réalisme est d'ailleurs souvent celui derrière lequel on s'abrite pour justifier des actes ou des comportements qui ne sont pas nécessairement justiciables. Alors, un certain nombre de nos partenaires européens donc on pas mal tiqué à l'énoncé de certains propos du président, parce que lorsqu'il dit qu'il ne faut pas être suiviste vis-à-vis des États-Unis, les Polonais, les Baltes, etc., font remarquer que le suivisme vis-à-vis des États-Unis permet de sauver l'Ukraine. parce que les 71 milliards de dollars dépensés par les États-Unis pour armer l'Ukraine et pour l'aider, voilà, n'étaient pas à notre portée collectivement, et en tout cas pas sur le plan des armements. Donc on retrouve là une sorte de permanence. Hein. On doit d'ailleurs rappeler que quand nous sommes au Sahel pour lutter contre le djihadisme, eh bien il y a des avions de transport, il y a au moins des avions radars américains. Il peut y avoir aussi des avions de transport américains. Et à l'inverse, quand on décide à juste titre, on voudrait frapper la Syrie après l'usage par Al-Assad d'armes chimiques contre sa population ayant franchi la ligne dite rouge, la France et la Grande-Bretagne sont prêtes à intervenir. Ils ne le peuvent pas parce que Barack Obama dit non. Et donc sans l'aide américaine, on ne peut pas grand-chose. Et donc il me semble que par ses propos parfois maladroits, Emmanuel Macron a ravivé un soupçon qui existait chez certains de nos partenaires et qui avait été nourri par le fait que Emmanuel Macron voulait à toute force discuter avec Vladimir Poutine et pensait que il arriverait à convaincre Vladimir Poutine et de ne pas aller plus loin. Ce qui a évidemment mis en considérant que les pays, d'autres pays européens considéraient que cette position française les mettait à terme ou potentiellement en difficulté. Et donc là, il a ravivé un petit peu tout cela, alors même qu'il voudrait entraîner, et qu'il lui faudrait en effet entraîner tout le monde derrière cette idée d'autonomie stratégique européenne qui ne peut être qu'un objectif de moyen et de long terme, Jean-Claude Casanova.
Oui, non, je crois. Donc ce qui est étrange avec le président Macron, c'est que l'axe général est excellent, la vision historique est juste, et il y a parfois des dérapages, si vous voulez, qui créent le trouble, et comme nous ne sommes pas nécessairement aimés, je lisais cet après-midi la presse anglaise, Spectator et les économistes se moquent de nous, si vous voulez, sur l'histoire sur les propos sur Taïwan. Peut-être parce qu'en profondeur, ils sont jaloux de la justesse de notre ligne politique, si vous voulez, qui me paraît à la fois dans l'intérêt de l'Europe et dans l'intérêt des États-Unis et du Canada et des autres démocraties, et dans l'intérêt d'une certaine façon des hommes en général, parce que je ne vois pas ce qu'il y a. Nous voulons commercer avec la Chine, mais nous souhaitons aussi davantage de liberté pour la Chine.
Alors vous évoquiez tout à l'heure d'ailleurs justement les relations économiques et commerciales. La position européenne de ce point de vue-là, celle des 27, est parfaitement claire, puisqu'elle consiste à dire, voilà, la Chine est un, je crois que l'expression consacrée, c'est un rival systémique. Donc qui montre bien l'antagonisme qu'il peut y avoir entre les ambitions chinoises et ce que nous sommes ou ce que nous voulons rester. Mais en même temps, il faut continuer de commercer avec elle, et c'est d'ailleurs l'intérêt de la Chine de commercer avec sa principale aire de développement qui est l'Union européenne, qui est quand même fondamentale pour le commerce chinois. Donc cette position-là n'est discutée par personne, elle est claire. Ce qui peut nous conduire, et c'est en ça ce point que Emmanuel Macron a certainement raison, ce qui peut nous conduire à ne pas embrayer le pas aussitôt avec les États-Unis lorsqu'ils décident d'un certain nombre de sanctions contre la Chine. Parce que là, en effet, nous avons des intérêts qui ne sont pas cohérents avec cette fameuse politique de sanctions. Mais ça, j'allais dire, c'est aussi un consensus européen, et c'est vrai que on peut aussi discuter des avantages que les États-Unis peuvent tirer, avantages entre guillemets, du conflit en Ukraine, parce que l'élargissement de l'OTAN va les conduire à vendre davantage d'armement aux Européens, va les conduire aussi à vendre davantage d'armes à l'Ukraine, ainsi de suite. Il y a nécessairement un avantage économique pour les États-Unis, mais ça n'empêche pas que sans les États-Unis, nous serions en plus grande difficulté.
Tous les avantages économiques, tous les inconvénients économiques doivent être discutés, si vous voulez. L'Europe a intérêt à exporter des biens à haute qualité technique vers la Chine, elle a intérêt à importer des biens de Chine. Mais en même temps, importer des biens à coût de travail réduit pose des problèmes en termes de désindustrialisation, etc. Autrement dit, l'Europe doit avoir une politique commerciale à l'égard de la Chine. Les États-Unis doivent avoir et ont une politique commerciale à l'égard de la Chine. Et s'il y a des différences entre la politique commerciale des États-Unis et la politique commerciale de l'Europe, ils seront objets de négociations et de discussions. Non, il y a là-dessus, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Les objectifs de l'Europe et des États-Unis peuvent être à la fois communs et différenciés. Il ne s'agit pas d'alignement. Les États-Unis ne sont pas notre supérieur hiérarchique. C'est une grande puissance à l'égard duquel nous avons un devoir de gratitude compte tenu de tout ce qu'elle a fait pour l'Europe pendant tout le XXe siècle. Et puis c'est tout. Mais à part cela, si vous voulez, il est évident que la coopération et l'entente entre les États-Unis et l'Europe ne posent pas de grands problèmes. Simplement, il y a un vieux rêve français, mais ça date de la guerre de 7 ans, quand nous avons cessé d'être la première puissance mondiale. Nous sommes jaloux qu'il y ait des puissances plus grandes que nous. Alors, par la rhétorique, nous essayons de compenser les inégalités de fait. Mais il ne faut pas que la rhétorique soit nuisible. Il faut réduire la rhétorique et être là, vraiment réaliste, c'est-à-dire dire les choses comme elles sont.
Rappelez-nous quelque chose, Jean-Claude Casanova. La guerre de 7 ans, c'est bien 1763.
Oui, ben
c'est à cette date qu'elle se termine. C'est la première grande défaite française dans la première mondialisation, en quelque sorte.
On perd l'Inde et le Canada, on gagne la Corse et la Lorraine.
Alors, qui gagne au change? Donc, en effet. Donc, dernier point, Jean-Claude Casanova, sur ces questions. Il y a un mot que le président de la République aime employer également, c'est de dire nous ne voulons pas être des vassaux des États-Unis. L'Europe n'a pas vocation à être vassale des États-Unis. Ça me rappelle des discussions qui avaient lieu sur ce thème, à l'époque où Joschka Fischer était ministre allemand des Affaires étrangères et était en couple institutionnel avec Hubert Védrine. Et l'un et l'autre s'évertuaient à expliquer qu'en effet, vis-à-vis de la bonne attitude vis-à-vis des États-Unis, c'était d'essayer d'être des partenaires et non pas des satellites. Et que, évidemment, la tentation américaine permanente, et elle est permanente en effet, c'est de traiter avec ses alliés comme avec des satellites, ou comme l'Angleterre peut être un satellite des États-Unis, et non pas avec des partenaires. Et c'est vrai qu'être un partenaire, c'est une lutte permanente. C'est une lutte commerciale, c'est une lutte technologique aussi, il y a des aspects de compétition, bien évidemment, et donc ça reste un enjeu. Mais le mot vassal, voilà, là aussi a été peut-être mal compris, en tout cas a perturbé un certain nombre de nos partenaires de l'Union européenne. Jean-Claude Casanova, pour terminer.
Mais nous pouvons avoir des difficultés avec les États-Unis. J'ai toujours craint, pour ma part, que les États, et on le voyait avec Trump, un tout petit peu avec Obama, que les États-Unis aient une tentation de puissance maritime. La caractéristique des puissances maritimes, c'est qu'elles n'aiment pas que les continents se fédèrent. Et donc, l'Angleterre a pendant 3 siècles empêcher l'intégration de l'Europe. C'était l'obsession anglaise. Il fallait, par exemple, que la Belgique ne soit pas française, absolument, sinon l'Angleterre entrait en révolution. Et il faudrait éviter que l'Amérique ait une tentation anti-européenne. Il y a un pays qui a une tentation anti-européenne, c'est la Russie. Le rêve de la Russie, à l'évidence, c'est que l'Europe n'existe pas. C'est évident, il suffit de, tout le monde le voit, si vous voulez, il passe son temps à dénier l'existence de l'Europe. Et ce qui serait un très grand danger, c'est qu'il y ait la même pulsion du côté des États-Unis, les États-Unis disant, après tout, il vaut mieux une Europe divisée, c'est plus facile de discuter directement avec les Allemands, avec les Français, avec les Anglais, etc. Et la sagesse à un moment de la politique américaine, convaincue d'ailleurs par un grand Français qui était Jean Monnet, que François Mitterrand a installé au Panthéon, eh bien, il fallait, si vous voulez, les États-Unis ont compris qu'il était l'intérêt des États-Unis d'avoir une Europe intégrée. Et il ne faudrait pas qu'ils perdent cette vision. C'est le cas de Biden, d'ailleurs, qui est très bien, qui est d'ailleurs pour partie un Européen, qui est un Irlandais, et qui a un sentiment historique de l'Europe.
À l'inverse de Donald Trump, évidemment, on a vu passer le boulet très près, puisque Donald Trump était carrément au seuil de mettre en cause l'article 5 de l'OTAN qui permet à un pays attaqué d'en appeler au secours des autres membres de l'OTAN automatiquement. Et donc Donald Trump avait suscité un commentaire de la part d'Angela Merkel qui avait parlé de trahison. Donc c'est bien de la trahison des États-Unis qu'il nous faut davantage éviter. Donc voilà un petit peu le point que nous voulions faire sur cette attitude sur la politique extérieure de la France conduite par Emmanuel Macron, avec donc cette polémique qui était née sur ses propos au retour de son voyage en Chine. Voyage en Chine qui, par ailleurs, s'était très bien passé. Et d'ailleurs, les Chinois avaient rivalisé de, comment dire, d'hommages ostentatoires au président de la République pour le mettre en valeur. Donc il y avait là aussi de la part de la Chine un jeu assez évident. Et on a oublié au passage que le président de la République était donc allé en Chine dans l'espoir d'infléchir la position chinoise vis-à-vis de la Russie. Mais la position chinoise vis-à-vis de la Russie est en complet soutien de la Russie, on l'oublie. Mais elle est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle ne condamne ni l'invasion ni la guerre menée par la Russie. Et elle continue de, au fond, de protéger son ami, son allié Vladimir Poutine. Donc on ne peut pas non plus nourrir de ce point de vue-là trop d'espoir. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Et Jean-Claude Casanova et moi-même, donc, nous vous remercions de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.